le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Sciences et Société. Quelles recherches mènent les chercheurs de l'UBO? Pourquoi écrivent-ils des articles et des livres? Comment le font-ils? Quel est l'intérêt de ce travail pour leur science et ou pour la société? Le LabLex, le laboratoire de droit de l'UBO, a organisé de février à avril 2021 une série de rencontres intitulée « Le numérique dans tous ses droits ». Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Valère Ndior, juriste en droit international et en droit du numérique, directeur adjoint du LabLex, et Nicolas Julien, économiste, enseignant-chercheur à IMT Atlantique, directeur scientifique de Marsoin, le réseau breton de recherche en sciences humaines et sociales sur la société numérique et l'innovation. Bonjour Nicolas Julien, vous êtes économiste et non pas juriste, bon, dans un colloque de droit. À quel titre avez-vous participé à ces rencontres sur le droit du numérique?
Bah, écoutez, d'abord, je pense qu'il faudrait poser la question à Valère, puisque c'est lui qui m'a invité. À quel titre j'ai accepté? Bon, je présenterai Marsoin tout à l'heure, mais je pense que depuis très longtemps, j'ai l'habitude de dans mes recherches sur le numérique, sur les communautés en ligne, de travailler avec des juristes et d'autres chercheurs d'autres disciplines. Et ce sont des questions complexes qui interrogent plein de niveaux de la société, des niveaux juridiques, mais des niveaux aussi de comportement humain, des niveaux économiques, évidemment. Et on ne peut pas... de mon point de vue, c'est plus riche, c'est plus intéressant, et c'est quand même ça qui intéresse les chercheurs, de réfléchir à plusieurs sur ces questions-là. Donc, quand il y a une réflexion qui me paraît intéressante de discuter, enfin une possibilité de discuter avec d'autres gens et d'autres disciplines, moi je trouve ça plutôt positif. Donc c'est pour ça que j'ai accepté. Alors, je sais pas pourquoi D'accord. Valère m'a invité, mais
on va lui demander. Mais avant, alors rapidement, peut-être présenter le réseau Marsoin.
Donc Marsoin, comme vous le disiez en introduction, c'est un réseau qui fait une animation sur la Bretagne des chercheurs en sciences humaines et sociales qui travaillent sur le numérique, sur l'impact du numérique sur la société, sur l'impact du numérique sur nos vies de citoyens, sur nos vies de travailleurs, sur nos vies économiques. Donc l'idée, c'est vraiment d'animer ces réflexions pluridisciplinaires, d'avoir des outils de compréhension de l'évolution du monde à cause ou par ou malgré le numérique.
D'accord, plusieurs disciplines, donc économie, voilà. Sociologie, droit.
Droit, management, sciences politiques, évidemment, infocom. Et ça regroupe en fait des chercheurs qui viennent des quatre universités de Bretagne, de trois grandes écoles, tous les chercheurs des institutions publiques de Bretagne et aussi des Pays de Loire qui travaillent sur le numérique font partie du réseau.
D'accord.
Donc Valère, il est bienvenu dans Marsoin. S'il s'intéresse au numérique, ça sera avec plaisir qu'on pourra discuter avec lui.
Bonjour Valère Ndior.
Donc. Bonjour Hervé.
Vous êtes l'organisateur de ces rencontres, donc vous avez invité Nicolas. Alors, pourquoi vous l'avez invité?
C'est toujours une question très risquée, parce que du coup, j'ai peur de ce que je vais répondre. Déjà, parce que j'ai découvert un peu le réseau Marsoin lorsque je suis arrivé à Brest il y a 3 ans. Et donc, évidemment, c'est un nom que j'ai vu passer. Et puis, je me suis intéressé un peu à ces recherches en lien avec le numérique. Et aussi parce que c'était la raison d'être de ce cycle de le numérique dans tous ses droits. Pas uniquement de susciter une discussion entre des juristes de droit public, de droit privé. Parce que chez nous, quand on fait de l'interdisciplinarité, c'est qu'on a invité le privatiste d'en face et on estime qu'on a fait l'interdisciplinarité, mais parce que ça faisait partie de cette démarche de rassembler des juristes, des économistes, des géopolitistes, même des spécialistes des sciences de la communication pour discuter d'un même objet. Et je suis très content D'accord. qu'il ait accepté, parce que ça permet d'avoir des discussions très riches, y compris aujourd'hui.
Les rencontres ont porté essentiellement sur 3 thématiques, hein, l'encadrement juridique des grandes plateformes, la protection des individus et le déploiement de l'État dans l'espace numérique ou sa reconfiguration, son rôle et ses moyens. L'État est garant d'un espace d'expression publique et de débat, bon, appelé depuis, on va dire, Habermas, l'espace public. Et les médias y contribuent massivement, donc. Les plateformes aussi. Alors, elles sont très puissantes. Quelles seraient les dérives possibles liées à la place importante de cette plateforme dans l'organisation du débat public ? Ont-elles des moyens de l'orienter, de l'influencer et surtout pour vous, juristes, pensez-vous qu'il y a matière à légiférer ?
Alors c'est quasiment la question de la décennie. C'est presque sujet d'agrég à ce stade.
Vous avez 4 heures.
Peut-être... Tout d'abord, apporter une précision, parce qu'on parle de plateformes, et c'est vrai que dans le cadre du cycle, on s'est surtout intéressé à un certain type de plateformes, des plateformes numériques qu'on qualifie notamment de réseaux sociaux ou de plateformes socio-numériques. Donc on va les citer, hein. C'est pas faire de la pub, hein. Facebook, Twitter, Microsoft, Amazon, TikTok et autres. Alors, évidemment, on a consacré le tout premier panel du cycle à la question du contrôle technique qu'exercent ces plateformes sur l'expression, sur la parole publique, sur le débat public. Et force est de constater que ces entreprises, qui sont des entreprises privées, qui sont des entreprises californiennes, hein, je pense qu'il faut le rappeler de temps en temps, ont développé des structures qui sont désormais des canaux de communication indispensables. Alors, pour les particuliers, hein, moi j'ai un compte Twitter, j'ai eu un compte Facebook par le passé, pour un certain nombre d'entreprises, pour des communautés d'amis, des groupes divers et variés, mais aussi pour des acteurs politiques. Et c'est là que les choses deviennent compliquées, c'est qu'à un moment donné, on se trouve face à des entreprises privées qui fournissent un service, hein, je pense que Nicolas sera peut-être d'accord avec moi, qui fournissent un service, mais un service qui est peut-être devenu indispensable et qui permet aux gens de s'exprimer, aussi bien avec leurs voisins qu'avec des personnes qui sont situées extrêmement loin. Et c'est posé la question, dans le cadre de ce séminaire, de savoir s'il était légitime qu'une plateforme comme Twitter ou Facebook puisse décider que tel contenu n'a pas vocation à rester en ligne, voilà, parce qu'il y a de la nudité, on pense évidemment à la jeune fille brûlée au napalm, à l'origine du monde, ou si finalement... c'est l'État, donc la puissance publique, le législateur, qui doit, sur la base de normes, hein, qu'on connaît bien, la DDHC, la Convention européenne des droits de l'homme, définir ce qui peut être dit ou ce qui ne peut pas être dit dans l'espace public. Et c'est tout l'enjeu des discussions que nous avons menées sur la question de l'arbitrage de la vérité. Voilà. Qui peut déterminer ce qui relève de la vérité ? Et puis surtout, quelle est la fenêtre d'Overton qui est fixée aujourd'hui à la fois
la
par...
La fenêtre de ?
D'Overton.
D'Overton, alors précisez.
Alors, pour faire simple, en gros, c'est l'ensemble des idées qui sont considérées comme acceptables et qui peuvent être exprimées à une époque donnée. Et il y a souvent des débats en ce moment sur la fenêtre d'Overton, qu'est-ce qui peut être dit, qu'est-ce qui ne peut pas être dit publiquement.
Il faut peut-être préciser aussi, parce que vous parliez de deux images que tout le monde a vues, hein, la petite fille au napalm dans les années 70, au milieu de la guerre du Vietnam. Et l'origine du monde, un tableau donc, qui montre un sexe féminin. C'est des machines qui ont écarté ces photos. Hein.
Oui, c'est un point qui...
C'est pas quelqu'un qui l'a fait, ce sont des machines paramétrées pour distinguer les formes et distinguer ce qui est montrable, pas montrable.
Oui, alors en fait, c'est ça, c'est que les plateformes recourent à la fois à des méthodes de modération commerciale algorithmique qui vont faire un travail massif, automatique, et éventuellement, une intervention humaine est possible lorsqu'il y a un doute ou lorsqu'il y a un recours par l'utilisateur qui dit, voilà, vous avez supprimé un contenu que vous ne deviez pas supprimer. Et donc, effectivement, ce sont des contenus qui ont été supprimés et qui ont par la suite, dans certains cas, pu être remis en ligne.
D'accord. Je vais me tourner vers Nicolas. Vous parlez d'ailleurs, enfin, vous n'êtes pas juriste, vous êtes économiste, mais vous êtes aussi citoyen. Et à un titre ou à un autre, que pensez-vous de cette importance croissante quand même, des plateformes dans l'organisation de l'infrastructure du débat public même. C'est-à-dire, ils proposent du matériel, des services pour dialoguer devant, en commun. Quoi.
Alors, c'est, comme dit Valère, c'est une question qui est très très compliquée et qui... Et sur laquelle finalement on en découvre tous les jours. Alors, l'économiste donnera quelques outils de réflexion et quelques qui permettront d'avancer. Il y a effectivement ces effets de rendement croissant, c'est-à-dire que ces plateformes-là, parce qu'elles sont basées sur de logiciels essentiellement, soit des infrastructures logicielles, soit des algorithmes de classement et de mise en ligne, bénéficient d'économies d'échelle très importantes. Donc, plus une plateforme est grosse, plus elle va être rentable et efficace dans sa gestion. Et donc, plus elle va être intéressante et elle va grossir.
Il y a un effet de monopole.
Il y a un effet, donc ça entraîne forcément ce qu'on appelle les rendements croissants d'adoption. Donc il y a ces économies d'échelle-là, hein, ces économies d'information. Hein. Aujourd'hui, Google, même s'il n'a qu'une part de pourcentage, enfin qu'un pourcentage du trafic, va capter énormément de publicité. Parce qu'il vaut mieux être sur Google que sur une autre plateforme. C'est exactement ce qui se passait il y a quelques années dans la télé où TF1 avait une part de marché très importante, mais une part de marché sur la publicité qui était beaucoup plus importante encore. Donc la pub, les gens vont plutôt aller vers la plateforme qui est leader. Du coup, à cause de ça, évidemment, ces plateformes-là ont des moyens qui sont très importants et qui vont se renforcer. Plus elles seront dominantes, oui, plus elles vont être dominantes. Alors, il y a le deuxième effet qui est bien connu, qui est un effet de ce qu'on appelle les effets de réseau. C'est-à-dire que quand cette plateforme n'a d'intérêt, enfin, Facebook, Twitter, n'ont d'intérêt, surtout Facebook, que parce que des gens que vous connaissez ou des gens que vous suivez, qui vous intéressent, vont être sur ces plateformes-là. Donc, elles vont, tant que vos amis n'y seront pas, eh bien, vous n'y serez pas.
C'est ça, oui.
À partir du moment où vos amis y sont, eh bien, vous allez être incité à y être. C'était exactement la même chose sur le téléphone mobile il y a quelques années. Hein, et on le retrouve sur ces plateformes comme Twitter ou comme Facebook. On va aller où sont les amis. Alors, à partir d'une certaine taille du réseau, eh bien, il y a des effets de rendement croissant d'information et qui fait que ben, s'il y a 2 millions de personnes sur Facebook ou sur Twitter, eh bien, naturellement, vous avez intérêt d'y être, même si vos amis n'y sont pas. Vous allez toujours trouver quelque chose qui vous intéresse. Donc il y a ces effets qui sont extrêmement puissants et qui expliquent le pouvoir de ces plateformes-là.
C'est inquiétant, c'est-à-dire c'est un effet de croissance automatique.
Voilà, c'est un effet. À un moment, c'est un effet de croissance automatique. Mais on sait aussi par l'histoire que cet effet, notamment les effets de réseau, ils sont souvent locaux au départ. Valère parlait de TikTok. TikTok, ça, c'est les moins de 15 ans, ça. Entre 15 et, on va dire, 20 ans, c'est Instagram. Entre 20 et 25 ou 30 ans, enfin, en tout cas, c'est plutôt Facebook. Les vieux se rappelleront de MSN.
D'accord.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire aussi que ces plateformes qui sont dominantes, qui ont l'air extrêmement dominantes à un moment donné,
Elles peuvent
aussi disparaître. Et d'ailleurs, Facebook l'a très bien compris. Hein, quand ils ont racheté Instagram pour 19 milliards de dollars, on s'est dit, mais ils sont tarés. Ça avait quelques centaines de milliers ou quelques millions d'abonnés. Sauf qu'effectivement, bah, aujourd'hui, les jeunes sont sur Insta. Et les plus jeunes sont sur TikTok. TikTok, c'est chinois d'ailleurs. Hein. On arrête d'avoir des plateformes états-uniennes. C'est ça qui pose problème aux États-Unis aujourd'hui, c'est que les plateformes, aujourd'hui, elles sont plutôt chinoises.
Oui, ça pose problème au gouvernement américain d'ailleurs.
Voilà. Donc vous voyez, il y a en même temps cet effet qui est très violent, et d'un point de vue économique, qui est très violent sur l'industrie de la presse, sur les plateformes qui ne sont pas dominantes, ce qu'on appelle le gagnant, le gagnant prend tout, winner take all. Et en même temps, eh bien, il faut modérer ce point de vue-là sur la puissance de ces médias, parce que même s'ils sont très visibles, eh bien, ils peuvent toujours disparaître ou évoluer. Et il y a d'autres médias qui restent malgré tout puissants dans le débat public. On est en Bretagne, on a deux journaux qui, malgré toutes ces plateformes, hein, le Telegram et Ouest France, continuent à être importants dans le débat public. Et les gens continuent à vous voir. Radio U a certaines importances à Brest.
Merci Radio U.
Non mais entre Twitter et Radio U, qu'est-ce qui finalement pour diffuser une information sur Brest est le plus intéressant? Moi je sais que si je veux qu'une information soit lue, soit connue sur Brest, il vaut mieux que j'ai un article dans le Telegram,
oui,
qu'un tweet. Donc, il faut aussi relativiser ces impacts.
D'accord, parce qu'il y a une hétérogénéité, en fait, des publics, des lieux.
Exactement, exactement. Mais c'est vrai qu'ils sont visibles. C'est des plateformes qui sont très visibles et qui sont très puissantes économiquement.
C'est une bonne nouvelle, on va dire. On va prendre un cas très récent où donc Donald Trump a été... Son compte Twitter et Facebook ont été suspendus. Et donc là, il y a une espèce de régulation par une plateforme, en plus, à propos d'un chef d'État, et l'État le plus puissant quand même, au monde peut-être. Donc dans cette puissance des plateformes, y a-t-il un risque qu'elles se substituent aux États pour réguler, tout en ayant pris en compte ce que vient de dire Nicolas, hein. Y a-t-il un risque qu'elles se substituent à l'État pour réguler l'espace public? Première question. Et n'y sont-elles pas encouragées quand on leur demande de prendre leurs responsabilités sur les contenus qui transitent sur leur plateforme?
Alors, là, on est vraiment dans la question d'actualité. Et puis, alors, en plus, on attend dans les prochains jours, on espère, quelques précisions sur ce qui s'est passé avec les comptes de réseaux sociaux de Donald Trump. Peut-être simplement rappeler le contexte. Les comptes de Donald Trump, Twitter, Facebook, YouTube et pas mal d'autres plateformes sont suspendus en l'espace de 48 heures. À la suite de l'assaut du Capitole qui, je le rappelle, a causé la mort de 5 personnes.
Oui, je l'avais oublié. Ouais,
voilà, il y a un contexte particulier, le 6 janvier. Et les choses sont assez compliquées. D'une certaine manière, Donald Trump est suspendu ou banni pour l'ensemble de son œuvre, avec, vous l'interprétez comme vous le souhaitez, mais aussi avec une mobilisation considérable d'une forme de communauté scientifique, de journalistes sur les réseaux sociaux disant « il est temps maintenant de bannir Donald Trump, il est allé trop loin ». Et on a notamment des juristes connus aux États-Unis, Daniel Citron et autres, qui se mobilisent en disant « il faut le bannir ». Alors là se pose un problème, Donald Trump est effectivement banni de façon permanente par Twitter, de façon semi-permanente par Facebook, qui dit on va le bannir et puis ensuite on demandera à notre conseil de surveillance de déterminer si on a pris la bonne décision. Et puis tout le monde suit YouTube et les autres plateformes. Alors là, effectivement, on a un problème, on a une controverse qui naît d'une part aux États-Unis entre les partis politiques républicains et démocrates, puis qui arrive très rapidement en Europe. Les termes du débat sont assez simples. Est-ce qu'une entreprise privée, rappelons à chaque fois que c'est quand même une entreprise privée, a le droit de couper le micro du chef d'État de la première puissance du monde? Et plus généralement, est-ce qu'on peut empêcher un chef d'État de s'exprimer sur une plateforme de réseau social? Certains vont répondre que finalement, les plateformes ont agi beaucoup trop tard et qu'elles auraient dû suspendre Donald Trump depuis bien longtemps parce que pendant 4 ans, il a conspué, critiqué, incité à la haine, insulté. Il faudrait 3 émissions pour rappeler un peu tout ce qu'il a fait. Et donc concrètement, ils auraient dû le faire plus tôt, ne serait-ce que parce que leurs conditions générales d'utilisation prévoient que toute incitation à la haine, à la violence, doit être réprimée par une suspension.
Mais alors la question, est-ce que justement leurs propres règles, ils l'ont fait pour être conformes à leurs règles, mais est-ce que leurs règles vaut pour aller jusque-là?
Le problème, c'est que ces deux plateformes n'avaient pas prévu de règles spécifiques aux comptes de chefs d'État, membres de gouvernement. Non. Et c'est ça qu'on a tendance à oublier, c'est que, en principe, Donald Trump, sur Twitter, est un utilisateur comme un autre. Alors, il a certes la petite certification, vous savez, c'est l'icône bleue qui montre que c'est bien son compte, que ce n'est pas quelqu'un qui l'a usurpé. Mais jusqu'à présent, la question ne s'était pas posée juridiquement de savoir si ces plateformes devaient accorder un traitement spécifique au chef d'État de gouvernement. Et ce qui s'est passé à partir du moment où Donald Trump a été critiqué, c'est qu'évidemment, on a une classe politique qui a dit « Ah bah oui, regardez, Donald Trump, ça fait quand même 4 ans qu'il nous agace, et il a provoqué un certain nombre de chefs d'État, il les a même insultés. » Mais en même temps, on a eu très rapidement un certain nombre de réactions de personnalités politiques en Europe, Angela Merkel, Cédric O, secrétaire d'État au numérique, un certain nombre de personnalités. Même récemment, aux États-Unis, certains membres de la classe politique se sont mobilisés en disant « C'est quand même problématique qu'un chef d'État puisse voir ses propos censurés par une plateforme privée parce que le public a un intérêt légitime à connaître la pensée, les propos, les ambitions d'un chef d'État. » Et c'est là que se trouve la controverse, parce que personne n'est d'accord, que ce soit les juristes, que ce soit les politistes, que ce soit les partis politiques. Certains considèrent qu'il fallait le virer, qu'en réalité, il aurait fallu le virer il y a bien longtemps, quasiment avant même qu'il devienne président. Et d'autres considèrent que son statut particulier justifie le maintien de son compte. Et c'est la raison pour laquelle, depuis quelques semaines, Facebook et Twitter, qui ont été quand même très malins, ils ont attendu 14 jours avant la fin de son mandat pour décider de le bannir, ont décidé d'organiser des consultations auprès de leurs utilisateurs. Donc une consultation qui a circulé, un formulaire lancé par Twitter, pour demander aux gens ce qu'ils pensaient du fait de pouvoir bannir un chef d'État, un membre de gouvernement, une personnalité politique. Et j'ai fait ce formulaire et franchement, j'étais bien en peine de répondre à certaines questions. Comme quoi, la question n'est pas si simple que ça.
Mais si on élargit à la responsabilité qu'ils ont sur les contenus ou qu'on leur demande de prendre ou au contraire qu'ils ne doivent pas prendre, qu'en pensent les juristes ? Où en est-on aujourd'hui là-dessus ?
Alors, on va dire qu'il y a une ambition politique qui est connue en France, hein, et on a eu une proposition de loi Avia hein, qui a été dégommée par le Conseil constitutionnel, et le texte va revenir sous une autre forme, la loi sur le séparatisme, les principes républicains. Donc, en gros, la question se pose de savoir quelles obligations peuvent être imposées aux plateformes de réseaux sociaux en matière de modération commerciale des contenus.
C'est ça.
Donc, ça, ce sont les termes du débat, et en fait, on se trouve face à une tension entre des impératifs qui sont présentés comme des impératifs de sécurité, essentiellement par les promoteurs de cette loi, à savoir, à un moment donné, nous voulons que les entreprises privées qui ont une telle responsabilité puissent exercer leur modération sur les contenus illicites, nuisibles, haineux, sur demande des autorités. Et de l'autre côté, nous avons l'enjeu de la liberté d'expression.
D'accord.
À partir du moment où on ne fait pas intervenir un juge, est-ce qu'on veut vraiment qu'un organisme public puisse envoyer une demande à une entreprise privée en lui disant « censurez ce contenu et ensuite on verra ». Et sur ce point-là, clairement, il y a un risque pour les droits fondamentaux et en tant que juriste, je ne suis pas certain que je souhaite qu'une plateforme de réseau social puisse décider ce que j'ai le droit de dire ou ce que je n'ai pas le droit de dire dès lors que je me conforme à ces conditions générales d'utilisation.
D'accord. Nicolas Julien, donc vous avez travaillé sur les communs numériques, dont Wikipédia. Wikipédia qui est une encyclopédie, mais c'est plus que ça. Pour moi, c'est aussi un lieu d'expression. On l'a vu avec les élections du temps de... Quand Ségolène Royal était face à Sarkozy, à un moment, il y a eu une question sur les générations des technologies nucléaires. Et Sarkozy et Royal n'étaient pas d'accord sur... Et dans le même temps, sur Wikipédia, ça bataillait pour modifier la notice en fonction de ce que disait l'un ou l'autre. Donc Wikipédia est un lieu il y a beaucoup d'enjeux aussi. Alors est-ce que vous pourriez, avec le travail que vous avez fait sur cette plateforme, indiquer ce qui distingue radicalement une plateforme comme celle de Wikipédia d'une plateforme commerciale ?
Alors, pour dire ce qui distingue, on va commencer par dire ce qui rapproche, puisque si vous les mettez ensemble, quelque part, il y a quelque chose qui les rapproche. Et la discussion de Valère nous donne un peu des points de sentiment. C'est-à-dire que tant que vous faites quelque chose dans votre garage ou un site web qui regroupe 10 personnes... finalement, ça n'intéresse pas grand monde. Et vous faites un petit peu ce que vous voulez. Alors, faut pas que quelqu'un entende dans la rue que vous insultez, que vous êtes raciste et tout ça, parce que là, c'est dans la rue, donc il y a une liberté d'expression. Et la question, en fait, de ces plateformes, c'est est-ce qu'elles sont dans la rue ou pas ? Enfin, est-ce qu'elles sont... Elles font partie de systèmes de la liberté d'expression. Et est-ce que dans la rue, on a le droit de dire n'importe quoi ? Et est-ce que la rue... est responsable de ce qu'on dit, ou quelque chose, enfin, bon, je sais pas la rue évidemment, mais est-ce que parce qu'on fournit un support technique à des individus pour qu'ils s'expriment, on est responsable de ce qu'ils disent. Les journaux, oui. Et c'est un des débats, hein. Est-ce que Facebook ou Twitter sont responsables de ce qu'ils disent ? Mais plus fondamentalement, et par rapport à la question que vous posez sur Wikipédia, ce que j'ai envie de dire, c'est que toutes ces plateformes-là, elles ont, quand elles grossissent, finalement, on dira qu'elles s'institutionnalisent. C'est-à-dire qu'elles deviennent un élément important du débat public. Et à partir du moment où elles s'institutionnalisent, on va leur demander des comptes. On va les surveiller, la société va les surveiller, l'État va les surveiller, les acteurs publics, on va dire les groupes sociaux ou les groupes qui ont des intérêts à défendre vont les surveiller et vont leur demander des comptes par rapport à leur point de vue. Et c'est fondamentalement ça qui se passe avec Wikipédia. Hein, l'histoire de Wikipédia a commencé en 2001, on a fêté ses 20 ans, là, il y a eu quelques articles dans les journaux bon anniversaire Wikipédia. Et le Wikipédia en français, là, c'était en mars, hein, donc il y a vraiment peu de temps. En 2001, personne ne serait venu écrire sur Wikipédia la controverse. À partir de 2005, on a commencé, Wikipédia a pris de l'importance et on a commencé à lui demander des comptes. De la même manière, si Twitter avait quelques centaines de milliers d'abonnés, la question ne se poserait pas forcément. Donc il y a un effet de taille et un effet de visibilité qui entraîne un effet de responsabilité, enfin en tout cas de demande en responsabilité. Ça, je ne sais pas comment les juristes le traitent, mais il y a cet élément-là, quoi. On devient, parce qu'on est visible, eh bien, on devient responsable vis-à-vis de la société.
Oui, normalement.
Ouais, mais fondamentalement, ça n'a pas changé. Le projet de Wikipédia n'a pas changé. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur Wikipédia. Vous n'êtes pas obligé de lire sur Wikipédia. Vous n'êtes pas obligé d'écrire sur Wikipédia. Vous n'êtes pas obligé de lire ce que Twitter écrit, comme vous n'êtes pas obligé de... etc., etc. Donc, à quel moment on a cette responsabilité? Alors ça, c'est ce qui est, voilà, ce qui pose un peu problème. Alors,
on ne peut pas échapper à ses responsabilités. Si vous tapez n'importe quoi, on vous dit droit du numérique, Google, deuxième lien, Wikipédia.
Non, vous avez, c'est pas si vous tapez n'importe quoi, vous êtes allé dans un moteur de recherche. Donc vous avez utilisé un service d'une entreprise privée qui vous aide à naviguer sur le web, notamment Google. Que ce moteur de recherche vous a un algorithme, donc un système de décision qui organise l'arrivée des informations selon des règles qui lui sont propres, et j'y reviendrai parce que ça c'est une grosse différence avec Wikipédia, et que vous acceptez que ce système-là vous rend service, hein, et notamment en leur donnant un certain nombre de précisions. Et troisièmement, c'est vous qui avez cliqué sur le premier lien ou le deuxième lien que ce système vous propose, et donc vous tombez sur Wikipédia parce que c'est le plus visible, etc. On retrouve ces effets de rendement croissant d'adoption, je suis d'accord. Hein, je suis d'accord. Mais on n'est pas... Enfin, je veux dire, on est aussi en partie responsable individuellement de nos choix de où on va.
D'accord.
Y a des choix qui sont plus faciles que d'autres.
D'accord.
Et effectivement, quand on donne accès à ces informations, c'est plus facile que d'autres. Alors, de la même manière, sur Wikipédia, qu'est-ce qui est pareil que sur ces plateformes? C'est que c'est des grands outils qui sont régulés en partie par des outils numériques, des algorithmes, des intelligences artificielles, qui vont automatiquement implémenter des choix ou des règles qui ont été décidées par quelqu'un. Il ne faut pas oublier ça, une intelligence artificielle, ça ne marche pas tout seul.
Oui, un concepteur d'ailleurs.
Il y a un concepteur qui lui a dit, qui lui a donné des données en entrée, hein, même si on n'a rien à voir, il a dit ça c'est les données, cette donnée elle est bonne, cette donnée elle n'est pas bonne. Donc tous les biais algorithmiques qu'on a derrière, c'est aussi parce que on leur a donné des données qui sont biaisées, tout ça. Mais il y a quelqu'un qui a donné des données.
Bien sûr. Oui.
Et il y a aussi quelqu'un dans certaines intelligences artificielles qui a dit, à partir du moment où tu as ce classement-là, tu dois décider ça. Donc si c'est nu, tu dois décider que c'est pas bien. Facebook aurait pu rajouter si c'est nu, c'est pas bien, sauf si c'est une peinture.
Oui.
Donc il n'y a pas eu cette décision qui a été faite à un moment. Donc il y a une décision et qui décide, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les policy makers ou les propriétaires de ces plateformes-là, les propriétaires de ces algorithmes, c'est eux qui ont le pouvoir et les algorithmes en fait renforcent leur pouvoir. On va arriver à Foucault et à Deleuze et à la société de contrôle. Ces algorithmes renforcent leur pouvoir puisqu'ils automatisent le contrôle sur l'ensemble de vos actions sur ces plateformes-là. C'est comme ça qu'elles marchent.
Oui, ils hiérarchisent les acteurs d'une certaine manière, les visibilités.
Et grâce à ces outils-là, la différence entre Wikipédia et ces grandes plateformes, c'est que les propriétaires et ceux qui contrôlent, dans un cas, ce sont des entreprises privées et leurs salariés, et leurs décisions ou leurs discussions sont globalement secrètes, on va dire, et peu contestables. Enfin, contestable au sens où c'est difficile pour une personne de...
Si on n'accède pas au mécanisme, on ne peut pas contester,
oui. Oui, non, et puis aussi, même si on accède au mécanisme, c'est difficile d'aller chez Google et dire, bon, allez les gars,
stop,
ça suffit, c'est pas sérieux.
D'accord.
Dans Wikipédia, c'est compliqué, il faut connaître les règles, il faut apprendre, mais il y a des endroits où on peut discuter, le bistrot, dans wikipédia.fr, où on peut aller discuter, dire, ça se passe comme ça. Alors, vous ne serez pas entendu tout de suite. Hein, ce qu'on appelle les Wikipédiens ou ceux ou les policy makers, comme je les appelle, de Wikipédia, eux aussi, ils ont ce pouvoir-là sur l'individu lambda qui contribue. mais vous avez une possibilité de faire entendre votre voix. Donc la gouvernance,
ça, c'est très important, hein,
de ces trucs, de ces communs de Wikipédia, elle est différente. Mais il y a plein de choses qui sont pareilles. Alors le temps file.
Oui, à faire toute vitesse, on va peut-être passer sur quelque chose d'autre de très important. Enfin, sauf si vous voulez finir.
Non, voilà. Okay. Donc il y a des choses qui sont pareilles. Mais c'est là, cette automatisation numérique, le contrôle des algorithmes, qui contrôle ces algorithmes. Il y a toujours quelqu'un qui contrôle ces algorithmes. Et après, il y a la discussion sur le pouvoir de ces gens-là et comment on peut le discuter.
Si je résume, d'un côté, il y a les acteurs privés qui sont... acteur privé, de l'autre côté, Wikipédia, qui est quand même un collectif où les choses se discutent.
Un collectif, mais il y a une fondation qui s'appelle la Wikimedia Foundation, qui est un acteur privé de droit états-unien. Ouais. Donc il y a aussi des acteurs privés.
Maintenant, on va aller sur les données privées, hein, c'est quelque chose d'important. Le mail, le téléphone, les préférences, les contacts, les sites visités, les heures de connexion, tout ça, c'est récupéré. Il y a des caméras de surveillance, on peut rendre interopérables des bases de données. Donc les technologies sont là et elles fonctionnent. Donc les individus pourraient devenir vraiment transparents. Il y a le directeur de Quant, qui est un moteur de recherche, qui dit, c'est sa petite phrase, affirmer, respecter notre vie privée. Et il s'exprime en disant, si un abus est possible, il est commis. Donc si un abus est possible, il est commis. Si la technique est là, on l'utilise. Ça voudrait dire que si la bombe est là, on peut l'utiliser. Bon. Et il ajoute, sauf à l'encadrer par des lois. Voilà. La bombe, ça s'encadre par autre chose, par des lois aussi peut-être. Donc, sommes-nous protégés d'une exploitation abusive de nos données personnelles ? Question pour Valère, donc juriste Valère Ndior du Lablex.
J'aime bien comment tu rappelles que je suis juriste après m'avoir posé cette question ultra difficile. Alors, sommes-nous protégés ? Oui, parce que tu mentionnais l'existence de textes, et oui, il existe des textes. Le règlement général sur la protection des données, on ne va pas revenir là-dessus, qui constitue le texte central en droit européen. On a un certain nombre de textes français. Donc oui, il existe des règles en Europe et en France qui protègent la vie privée et les données personnelles. Ça n'empêche qu'à un moment donné, les entreprises continuent de capter, les entreprises, les plateformes, un certain nombre de services vont continuer de capter des données ou des métadonnées parce qu'à un moment donné, on les met à leur disposition, plus ou moins consciemment. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, ces entreprises, le fonctionnement de ces entreprises repose sur la captation de données et concrètement, elles ne font pas d'argent si elles n'ont pas de données à revendre à des tierces parties, notamment les sponsors. Donc, la question qui se pose le plus souvent, c'est pas tellement celle de savoir si on dispose de règles pour protéger les utilisateurs, c'est plutôt de savoir dans quelle mesure l'utilisateur a conscience du fait qu'il est accepté de céder à une entreprise ou à une plateforme le droit, avec beaucoup de guillemets, d'exploiter ces données.
Et là, il faudrait peut-être parler des contrats qui font 30 pages, illisibles, et qu'on signe, qu'on accepte, pour tout simplement faire visualiser une page.
Je ne sais pas si vous êtes amusé à lire les conditions générales d'utilisation de Facebook, Instagram ou autre. Même en ayant fait une formation en droit, je ne suis pas sûr d'avoir compris ce pourquoi j'ai signé. Lorsqu'Instagram inscrit dans ses conditions générales d'utilisation que les images qu'on publie peuvent être éventuellement utilisées à des fins ultérieures, à des fins de promotion, je ne suis pas sûr que le consentement des utilisateurs soit éclairé. Donc, plutôt que je pense que la question est beaucoup plus compliqué que ça, plutôt que celle de savoir s'il existe ou non une protection, parce que oui, il existe des règles, elles sont adaptées, elles sont renforcées, les juges sont là aussi, ils essaient de faire leur travail. La question qui est centrale, celle du consentement. Sait-on véritablement quelles données sont collectées et sait-on à quelle fin ? C'est la question de la finalité du traitement. Oui. Et c'est là que les choses deviennent compliquées, parce que les utilisateurs n'ont pas nécessairement conscience de ce qui peut être fait de l'information, ou même de ce qu'est une donnée personnelle.
Peut-être on peut signaler quelque chose que vous êtes aperçu récemment. Si on clique sur paramétrer le contrat, maintenant il y a un bouton qui dit on peut tout refuser, c'est ça, hein ?
Alors oui, voilà, ça c'est applicable depuis le 1er avril 2021.
Voilà, donc mais c'est important de le dire parce que moi je l'ai découvert avec mon gamin qui s'est mis à paramétrer les contrats là. Ouais.
Alors c'est quand même pas négligeable parce que ça fait gagner à peu près 15 secondes lorsqu'on arrive sur un site internet parce que moi je fais partie des.
Refuser et avoir la page quand même.
C'est ça. Donc il y a les rebelles qui cliquaient sur refuser. Enfin, maintenant c'est refuser tout. Sauf que certains sites reposent quand même un peu sur l'utilisation de cookies et ont mis ce qu'on appelle en place des cookie paywall. Concrètement, cela signifie que si on refuse les cookies, on ne peut pas accéder au site sauf à payer un abonnement. Donc comme les plateformes trouvent toujours un moyen de récupérer des données en faisant payer.
Donc là, je me retourne vers Nicolas Julien, économiste à IMT, rappelons-le. Et alors, à propos de ce que vient de dire Valère sur la responsabilité qu'a chaque internaute dès lors qu'il signe un contrat, même si ce contrat peut être illisible, qu'en pensez-vous, vous, depuis votre des travaux que vous avez faits?
Alors, de mes travaux ou de ce que j'ai pu lire dans la littérature économiste sur... sur l'individu qui est rationnel, qui fait partie de mon travail, mais pas de mes travaux.
D'accord.
Vous avez déjà essayé d'utiliser Quant?
J'ai déjà essayé, mais pas longtemps, parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais, je crois.
C'est marrant, ça, quand même. Hein. Donc, en fait, quand vous utilisez un navigateur qui trace pas automatiquement... où vous êtes, via l'adresse IP par exemple, puisque ça c'est une donnée personnelle, retient pas trop votre parcours de navigation, de ce que vous avez fait avant, vous n'êtes pas content des résultats.
Là-dessus c'est intéressant, c'est une question qui m'intéresse, je voudrais apporter un élément supplémentaire. Google retient tout ce qu'on fait, d'accord ? Mais quand on parle à quelqu'un, on retient aussi tout ce qui s'est dit avant, et le fait qu'on ait retenu ce qui s'est dit avant nous permet d'être plus pertinent quand on répond à cette personne. Google, d'une certaine manière, j'ai pas envie du tout de me faire l'avocat, je vais me faire l'avocat du diable, à vrai dire.
Complètement.
Mais à propos, je sais pas, de musique, par exemple, Google sait que j'ai été voir le concert de Jimi Hendrix à Monterey ou je ne sais où, et il va me ramener The Cream ou autre chose. Bon. Au moment où je cherche la musique, au regard de ce que j'ai déjà écouté, il me donne quelque chose. Il y a une certaine pertinence. Il y a aussi un enfermement, mais il y a une certaine pertinence. Donc, c'est pas le fait de mémoriser le trajet est un élément de pertinence aussi dans la réponse.
CQFD.
Tout est résumé, monsieur.
Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement sur l'individu?
Oui.
C'est que finalement, c'est ce que Valère a oublié de dire, c'est que vous payez ou je ne sais quoi, vous êtes le produit, mais l'être humain est paresseux.
Oui.
Et fondamentalement, toutes ces plateformes-là, elles jouent aussi là-dessus, sur notre paresse naturelle, sur le fait que, on préférera ne pas trop savoir finalement quelles données ces plateformes ont récupérées pour un service qui sera meilleur, que dire à Quant, trouve-moi les restaurants dans Brest, à proximité de Radio U. Alors, faut pas lui dire Radio U, parce que peut-être que Quant ne sait pas où c'est, mais à proximité du rue de Kerguat, etc.
Google le sait.
Donc, Google le sait déjà. Donc, ce que je veux dire, c'est que si vous dites à Quant, si vous apprenez à Quant, ou vous lui donnez les informations dont il a besoin pour vous donner une réponse, il va la trouver. Donc, si vous faites l'effort de réfléchir...
Oui, d'accord, ouais.
Et donc, au lieu de faire l'effort, c'est pas la faute de Quant. Enfin, si, la faute de Quant. C'est Quant vous propose un service.
Mais ça suppose un utilisateur bien plus averti, c'est ça?
Plus averti ou plus courageux, qui va passer plus de temps à renseigner ça. Et d'autres études ont montré que, globalement, en fait, les individus sont prêts à céder un certain nombre de données personnelles.
À renoncer à des choses importantes.
À renoncer, en fait, à leurs données, alors importantes ou pas, en fait... parce qu'ils estiment que finalement c'est pas très grave, que ça n'impacte pas forcément de manière très grave leur vie, ils risquent entre guillemets pas grand chose, et donc c'est des données qui ont peu de valeur pour eux, enfin en tout cas le secret de ces données a peu de valeur pour eux, donc si en échange ils ont un service qui est de meilleure qualité, eh bien ils le feront. Il y a plein d'études qui montrent que les gens sont conscients qu'ils donnent des données personnelles, ils sont conscients que il y a un certain nombre de traces qu'il laisse, mais qu'il ne le considère pas comme si grave que ça. De la même manière, vous allez utiliser Gmail, de la même manière, vous allez utiliser les services... si vous avez un smartphone, vous allez utiliser les services de Google Android pour récupérer vos informations, etc.
Oui.
Alors moi, je n'ai pas de smartphone. Bon, j'en accepte les conséquences. C'est-à-dire que je sais, quelquefois, quand je suis perdu dans la rue ou sur la route, je suis perdu. Il reste malgré tout un certain nombre de choses sur la responsabilité individuelle qu'il faut prendre en compte. et sur la paresse des gens. Donc, c'est là que l'État intervient peut-être en faisant des lois et finalement, quand il y a un débat public, en posant des limites à ce que ces plateformes numériques peuvent faire en jouant sur la paresse des gens.
Les lois, c'est bien, mais l'éducation, c'est mieux.
On va conclure sur ces belles paroles où, en fait, on voit qu'il y a, il y a une prise de conscience à prendre, il y a une responsabilité à endosser, il y a peut-être une perte, peut-être dans l'immédiat, de confort, mais pour gagner quelque chose de plus. C'est intéressant, je trouve, de conclure là-dessus. Donc, merci à Valère Ndior, enseignant-chercheur en droit à l'UBO, directeur adjoint du LabLex, donc laboratoire de droit de l'UBO. Et merci à Nicolas Julien, économiste, enseignant-chercheur à IMT Atlantique, directeur scientifique de Marsoin, le réseau breton de recherche en sciences humaines et sociales sur la société numérique et l'innovation. Lors de notre prochain rendez-vous dans le cadre de Histoire de ma thèse, nous recevrons Anaïs Lebert, doctorante en droit au laboratoire Amur, qui nous présentera donc son travail. Ça sera sur l'Europe et l'environnement, voilà, le droit de l'environnement et l'Europe.
Ben, merci de nous avoir invités. Merci à Radio U.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Sciences et sociétés.